Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton.
À l'occasion du 450e anniversaire de la naissance de Shakespeare, France Culture s'associe aux événements organisés tout au long de l'année 2014 par la société française Shakespeare. Pendant la semaine d'ouverture de cette année Shakespeare et au moment où le congrès international Shakespeare 450 se déroule à Paris pendant toute cette semaine à l'Odéon Théâtre de l'Europe, France Culture vous propose d'écouter des extraits du livre que Peter Brook vient de consacrer au grand dramaturge anglais. Voilà près de 70 ans que Peter Brook fréquente Shakespeare. Il n'a jamais cessé de revisiter les pièces de ce monument de la culture occidentale. Dans son livre, « La qualité du pardon », il se penche sur son aventure de metteur en scène et nous guide à travers l'œuvre du dramaturge en s'interrogeant sur ce qui fait la force unique de son théâtre.
En direct du studio 114 de la Maison de la Radio, La qualité du pardon, réflexion sur Shakespeare, de Peter Brook.
Shakespeare était non seulement un homme remarquable, mais ses pièces englobaient tous les aspects de la vie. Shakespeare aussi était un homme qui ne sentait pas la nécessité de nier un aspect de la vie pour en faire sortir un autre. Ce n'était pas un moine, ce n'était pas quelqu'un qui rejetait la vie. Dans les pièces de Shakespeare, on trouve la truculence, on voit la vulgarité, on voit la vie de tous les jours, le bazar, le marché, tout le côté brut de la vie. À l'intérieur de ça, dans chaque vers, il y a en même temps une pensée de notre ordre, une musique de notre ordre qui reflète une recherche et une perception qui était toujours là, quelle qu'était la situation, d'une manière stable, et qui donne cette globalité à son œuvre.
Aujourd'hui, première émission, hélas, pauvre Yorick. Musique Julien Robert à la viole de gambe. Texte de Peter Brook, dit par Godefroy Segal.
Je me trouvais à Moscou. Je parlais de Shakespeare à l'occasion du festival Tchekhov. Quand j'eus terminé, un homme se leva et tout en contrôlant sa voix qui vibrait de colère, il annonça publiquement qu'il appartenait à une république islamiste du sud de l'URSS. « Dans notre langue, dit-il, Tchèque veut dire Tchèque et pire désigne un homme sage. Pour nous, aucun doute ne subsiste. Depuis longtemps, nous avons appris à lire les messages secrets. Celui-ci est clair. Depuis lors, ici et là, on m'informa d'autres revendications concernant l'œuvre du poète. Il y a quelques années, le plus réputé des magazines intellectuels américains demanda à tout un groupe de professeurs mais d'explorer cette grande question. Qui a écrit Shakespeare ? Je ne sais trop pourquoi, ils me demandèrent une contribution et je leur envoyais une réductio ad absurdum, assez drôle, il me semble, de toute leur théorie. L'éditeur me renvoya mon texte avec une note m'informant que, bien qu'il m'ait demandé cet article, il ne leur était pas possible de le publier car il n'était pas à la hauteur du niveau académique qu'il attendait des participants. Ma conclusion m'avait accablé à leurs yeux. J'y citais un remarquable humoriste anglais du début du XXe siècle, Max Beerbohm. Pour répondre aux tortueuses tentatives qui veulent trouver partout des secrets cachés, il prouva que les œuvres de Tennyson avaient été écrites par la reine Victoria. Nous pouvons tous nous mettre d'accord au moins sur un point. Shakespeare a été et reste unique. Il domine tous les autres auteurs dramatiques. La combinaison d'éléments génétiques, ou de planètes si l'on préfère, qui présida à son apparition mais dès l'utérus est si stupéfiante qu'elle ne peut se produire qu'une fois en plusieurs millénaires. On dit souvent que si un million de singes tapait sur un clavier pendant un million d'années, il en sortirait les œuvres complètes de Shakespeare. Rien n'est moins sûr. Shakespeare touche à toutes les facettes de l'existence humaine. Dans chacune de ses pièces, le bas niveau, le répugnant, le puant, la misère de la vie ordinaire s'entrelacent avec le beau, le pur, l'élévation. Cela se voit aussi bien dans les personnages qu'il crée que dans les mots qu'il écrit. Comment un seul cerveau pouvait-il aussi largement s'ouvrir ? Pendant longtemps, cette seule question suffisait à éliminer l'idée même d'un homme du peuple. Il ne pouvait s'agir que d'un homme de haute naissance et d'une éducation supérieure. Un élève ordinaire de la campagne, même doué, n'aurait jamais pu parcourir autant de niveaux d'expérience. Au cours de nos recherches sur le cerveau pour la pièce « L'homme qui », j'ai rencontré de nombreux phénomènes. Les capacités de certains mnémonistes étaient en particulier mais très étonnantes. Cas typique, celui d'un chauffeur de taxi de Liverpool qui possédait dans sa tête la disposition de chaque chambre d'hôtel de cette ville, jusqu'au moindre détail. Ainsi, quand il chargeait des clients à l'aéroport, il pouvait les conseiller. « Ah non, la chambre 204 n'est pas ce qu'il vous faut, le lit est trop près de la fenêtre. Demandez à voir la chambre 319. » Ou mieux encore, « Allez au Liverpool Arms et demandez la chambre 5, mais c'est exactement ce qu'il vous faut. » Cette mémoire prodigieuse ne lui venait pas d'une éducation supérieure. Et de toute manière, cela ne suffit pas pour écrire les pièces de Shakespeare. Celui-ci devait être doué d'une capacité, mais extraordinaire, pour recevoir et pour ne pas oublier toutes sortes d'impressions. Un poète absorbe tout ce qu'il éprouve. À plus forte raison, un poète de génie. Il le filtre et il possède cette unique capacité de relier entre elles des impressions qui peuvent paraître largement distinctes et même contradictoires. Aujourd'hui, nous utilisons rarement le mot génie, mais chaque fois que nous parlons de Shakespeare, nous devons, dès le départ, reconnaître qu'il s'agit bien d'un cas de génie. Du coup, tout snobisme social démodé est balayé. Le génie peut apparaître en effet dans les milieux les plus modestes. Si nous regardons la vie des saints, la plupart d'entre eux, au contraire des cardinaux et des théologiens, était d'une origine très ordinaire. Et d'abord Jésus. Personne ne doute que Léonard ne fut réellement Léonard de Vinci, même s'il était un enfant illégitime né dans un village italien. Des professeurs dévoués, diligents, ont accompli un travail de recherche mais stupéfiant. En tout premier lieu, James Shapiro a magnifiquement rendu compte des goûts et des couleurs de cette époque-là. Il parvient à nous convaincre, grâce à une recherche si détaillée que, pour une fois, la théorie cède à la place à une expérience vibrante. Nous pouvons ainsi, grâce à Shapiro, imaginer le jeune homme qui arrive de la campagne, ses premiers jours à Londres, dans les rues encombrées et bruyantes. Nous le voyons s'asseoir dans les tavernes, jeter un coup d'œil dans les bordels, ses yeux et ses oreilles largement ouverts, recevant des impressions de récits de voyageurs, des échos d'intrigues de palais, des querelles religieuses, des réparties pointues, élégantes, aussi bien que de violentes obscénités. Étant donné son avidité, sans doute très rare, et sa capacité de réception, une seule journée, ou si l'on préfère une semaine, pouvait lui fournir un matériel plus que suffisant social, politique, intellectuel, pour toute une guirlande de pièces. Et de fait, année après année, il a vécu dans cet océan d'informations qui nourrissait les histoires encore imprécises qui tournoyaient déjà dans sa tête. Rien d'étonnant à ce qu'il a paru, vu de l'extérieur, comme un homme tranquille. Quand un problème de plagiat surgit parmi les érudits, Chaque enseignant connaît ce bourdonnement, ce murmure excité qui fait les délices de la Senior Common Room, la salle commune des professeurs. Sa salle commune, à lui, était le théâtre. Qui donc était cet homme qui jouait, qui s'asseyait épaule contre épaule pendant les répétitions, qui prenait place dans des tavernes et parlait à tout un chacun pendant des heures et que personne ne soupçonnait d'être un imposteur ? Un acteur peut demander à un auteur « Tu peux me changer cette réplique ?» Ou bien « Ce passage paraît un peu long, on peut le raccourcir ?» Ou encore « Là, je n'ai pas assez de temps pour changer de costume, tu peux écrire un monologue ou un bout de scène ? Ça pourrait m'aider. » Imaginons un faux. Un prétendu Shakespeare au milieu de tout ça. Il doit corriger ou ajouter une nouvelle scène. Il réfléchit, il calcule combien il lui faudrait pour chevaucher jusqu'à Oxford, peut-être New York, attendre là que l'auteur secret lui donne les textes et revenir. Chaque fois, Shakespeare devrait marmonner, ronchonner et dire « ça va prendre 5 jours ». Et personne n'a jamais commenté ça, mais qui a duré des années et des années. Personne parmi ses rivaux, jaloux et fielleux, n'a jamais soupçonné le moindre coup fourré. Désolé, cher universitaire, mais si vous aviez participé à un travail de répétition, n'importe lequel, dans un théâtre, vous changeriez aussitôt d'idée. Aujourd'hui même, imaginons un auteur bidon, les acteurs remarqueraient vite que chaque fois que vous lui demandez quelque chose, il se faufile dans les coulisses avec son téléphone portable. En qualité de directeur de théâtre, rusé en affaires, Shakespeare a souvent réalisé que sa compagnie pourrait sauter sans que les salaires soient payés, à moins qu'il n'accourt très rapidement avec un nouveau succès. Aucun document n'indique une correction, une réécriture. Ben Jonson le fait remarquer. Il n'y avait pas de pièces en attente dans les tiroirs, inachevées, aucun carnet de notes d'auteur, aucun perfectionnisme dans le genre de Samuel Beckett, écrivant une version après l'autre de chaque pièce. Son cerveau n'arrêtait jamais de recherche en expérience. Il était comme Mozart. Si, en urgence, on attendait quelque chose de lui, il appelait aussitôt toute la matière vivante qui vibrait en lui. Le théâtre vit et respire au temps présent, non dans les bibliothèques ou les archives. Au théâtre aujourd'hui, comme hier, n'importe où dans le monde, l'auteur est présent. Il est un être humain vivant. Impossible d'imaginer Shakespeare arrivant le jour de la première, tendant aux acteurs les mots qu'ils auraient à dire et s'attendant, quelques heures plus tard, à les voir jouer Hamlet ou le Roi Lear sans préparation, sans répétition, sans que soient indiquées les entrées, les sorties, les départs de musique et les déplacements d'un niveau scénique à un autre. Mais comment penser que tout cela pouvait être fait sans question, sans discussion, sans essai, sans erreur ? Il fallait sans cesse prendre des décisions pratiques. Il suffit de regarder. Dans le songe d'une nuit d'été, le personnage de Bottom aux prises avec les travailleurs manuels, que nous appelons en anglais les mechanicals, ou les conseils d'Hamlet aux comédiens, pour voir concrètement que même si du temps de Shakespeare les productions n'étaient pas aussi complexes qu'aujourd'hui, il ne s'agissait nullement d'improvisation hasardeuse. Il fallait du temps, des questions et même des désaccords qui visaient l'auteur, surtout s'il était lui aussi un membre de la compagnie très au courant des problèmes qu'il devait résoudre ensemble. Et vite. Il est très étonnant que dans leur quête d'une évidence pour soutenir leur théorie, cet aspect fondamental ait été totalement laissé de côté par un si grand nombre d'érudits. Shakespeare n'était pas un poète retiré dans une île, il écrivait pour une communauté théâtrale dont l'existence était précaire. Sans parler des acteurs. Il y avait dans le théâtre du Globe, hier comme aujourd'hui, des souffleurs et des assistants professionnels qui faisaient le travail nécessaire sous diverses appellations, comme celle de stagekeepers, gardiens de scène. Omniprésents pendant les répétitions et les représentations pour ouvrir et fermer les rideaux transversaux, pour rassembler et distribuer les accessoires, pour vérifier que les acteurs étaient à l'heure pour leurs entrées, et surtout pour assurer l'ordre sur la scène et parmi le public. Il contrôlait aussi pendant les scènes de bataille le nombre toujours variable des figurants. Mais ces gardiens de scène étaient connus, mais pour lancer à haute voix leur jugement sur la pièce. Tout comme les élégants assis sur la scène qui rivalisent d'astucieux mots d'esprit aux grandes dames des acteurs comme le font les courtisans, dans le songe d'une nuit d'été en assistant à une représentation de Pyram et Thisbé. Il est étrange, il est même irréel, d'imaginer que Shakespeare, qui travaillait année après année au milieu de tous ses employés fatigués et mécontents, n'ait jamais vu sa qualification d'auteur mise en doute. Toutes les théories qui ne prennent pas en compte les répétitions et les représentations restent flottantes. Bien sûr, aujourd'hui encore, certains acteurs, ici ou là, chérissent telle ou telle théorie, mais ils sont peu nombreux et tout les sépare. L'époque de Shakespeare grouillait de dramaturges bons ou mauvais, généreux ou méprisants. La plupart d'entre eux moururent pauvres. Shakespeare fut un des rares qui put se retirer avec assez d'argent pour acheter une terre. De là, mille sources d'envie. La Londres élisabéthaine n'était pas une exception. Comme partout, des écrivains tentaient de vivre de leurs plumes, toujours prêts à produire un pamphlet pour dénoncer leurs camarades. Shakespeare offrait une cible idéale. N'était-il donc pas étrange qu'il n'existe aucun document dénonçant ce soi-disant acteur, directeur qui avait la prétention d'écrire et même de publier sous son propre nom des œuvres qui connaissaient tant de succès? Nous ne connaissons guère que les deux mots dénigrants, souvent cités de Robert Greene, un corbeau arriviste, an upstart crow. Enfin, ces mots nous furent rapportés et frappés même de remords par Ben Jonson, qui fut pendant des années son rival déclaré, mais avec qui il passait des heures à la taverne de la sirène. Et comment se fait-il que nous ne puissions trouver aucun pamphlet drôlatique qui se serait vendu à chaque coin de rue avec le même succès que toutes les théories du complot et autres secrets intimes révélés rencontrent aujourd'hui? Jean Genet me dit un jour, « Les auteurs sont des personnes très jalouses. Si quelqu'un a un grand succès, c'est un vrai soulagement d'apprendre que ce n'est pas lui qui a écrit la chose, mais son cousin. Et si le fait est établi, l'envie se porte tout aussitôt sur le cousin. » Il semble bien qu'il existe une soixantaine de prétendants au trône de Shakespeare. Parmi eux figure même une femme, une juive espagnole dont on a dit qu'elle était « The Dark Lady », la dame sombre des sonnets. Il y a même une rumeur selon laquelle c'est la reine Élisabeth qui écrivit les pièces de Shakespeare en collaboration avec un fils illégitime, avec lequel elle entretenait une relation incestueuse. Le partisan de chacun de ces prétendants travaille très précisément chaque fois comme un procureur. Il part de la thèse qu'il doit imposer et il utilise toute son érudition, mais souvent brillante, pour convaincre le jury, éliminant d'emblée ceux de ses collègues qui s'opposent à lui. Ainsi, dans la plupart des cas, nous ne pouvons qu'être convaincus. Pour autant que je sache, des siècles passèrent avant qu'on se demandât qui était l'auteur qui se cachait derrière le nom de Shakespeare. Soudain, à la fin du XIXe siècle, une dame de Boston, qui s'appelait précisément Delia Bacon, se réveilla et décida que son grand-grand-grand-grand-grand-oncle, Francis Bacon, avait écrit les pièces de Shakespeare. Ainsi fut lancé le filon de l'imposteur. Dans les périodes économiquement difficiles, ce fut une bénédiction car cela fournissait une quantité d'emplois, des postes aux professeurs, des avances d'éditeurs à ceux qui voulaient contester la toute dernière publication et une aubaine pour les éditeurs eux-mêmes avec tout le cortège des imprimeurs, copistes, relieurs, distributeurs et libraires. Et les critiques, naturellement, avaient un intérêt tout trouvé, comme des banquiers à faire circuler le ballon. Un des premiers anti-shakespeariens portait le nom de Thomas Looney, c'est-à-dire Thomas le cinglé, le dingue. Nous pouvons ici nous permettre un sourire. Imaginons les conséquences aujourd'hui d'une victoire de Delia Bacon. Francis Bacon a tout écrit, mot après mot. C'est prouvé, c'est irréfutable. Tout aussitôt, le lieu de naissance se déplace à Saint-Alban. La ville de Stratford s'effondre avec ses trois théâtres, les bars, les restaurants et l'hôtel Shakespeare et les autres hôtels, les cars de touristes et les boutiques de souvenirs. Le conseil municipal de Stratford se réunit en pleine panique. Désespoir. Mais quelqu'un demande s'il est trop tard pour éliminer l'auteur de Bacon la vérité. Et sa maison pourrait prendre feu et tous les papiers. Qu'en dites-vous, monsieur le maire? À Saint-Alban, c'est la fête. Le conseil municipal se réjouit, l'argent déjà s'annonce. Une génération toute fraîche d'acteurs, de metteurs en scène et d'architectes discutent du nouveau festival de théâtre. On commande des drapeaux, des banderoles, des t-shirts, des pins. La Bacon Industrie s'annonce florissante. L'érudit qui a donné le signal est anobli. Bref, il y aura toujours un mystère, une énigme. Quel épitaphe mieux adapté pourrait-on trouver pour l'auteur d'Hamlet? À coup sûr, chaque aspect de cette histoire est riche de contradictions inexpliquées. Nous ne connaîtrons jamais les réponses. Nous affronterons toujours de nouveaux prétendants et de nouveaux mystères. À la fin, que le bon sens l'emporte. Tout ce que nous savons semble indiquer que Shakespeare était un homme très modeste. Il ne se sert pas de ses personnages pour exposer ses pensées, ses idées. Il n'impose jamais sa vision du monde dans l'œuvre qu'il nous offre. Ibsen n'a pas hésité à nous dire ce qu'il pensait de la société dans laquelle il vivait. Brecht a écrit pour démontrer ce qui n'allait pas dans le monde et comment il faudrait s'y prendre pour le changer. Cependant, une fois encore, Shakespeare est unique. Il n'a jamais jugé. Il nous a donné une multitude, sans fin de points de vue, chacun plein de sa propre vie, laissant les questions ouvertes à la fois à l'humanité tout entière et à l'intelligence de chaque spectateur. Il n'avait besoin d'aucune ostentation. Il n'a jamais essayé de s'affirmer lui-même. Et c'est pourquoi nous n'avons à son sujet mais aucune de ces anecdotes pittoresques dont les biographes sont avides. Ben Jonson, si doué pour la caricature, ne put trouver qu'un adjectif pour définir cet homme vague. Gentle. Ce n'est que dans l'intimité des sonnets qu'il parle à la première personne et même qu'il reconnaît la valeur éternelle des mots qui sortent de sa plume. Pour son temps et pour toujours, il est l'homme qui s'est effacé lui-même. Et nous pouvons maintenant évoquer la scène du fossoyeur dans Hamlet. Shakespeare, acteur, est peut-être le fossoyeur lui-même. À ses pieds, il aperçoit son propre crâne. Il le prend dans sa main et, pendant un long moment, quelque peu narquois, il essaie d'entrevoir l'avenir. Il murmure alors, d'une voix douce. Hélas, pauvre Yorick.
C'était La qualité du pardon, réflexion sur Shakespeare de Peter Brook. En direct du studio 114 de la Maison de la Radio, première émission aujourd'hui, hélas, pauvre Yorick. Texte dit par Godefroy Segal, musique Viol d'amour, Julia Robert, extrait choisi par Catel Guillou, conseillère littéraire Emmanuel Chevrière, prise de son Philippe Bredin, Ludovic Auger, assistante à la réalisation Clémente Grosse, réalisation Claude Guerre. La qualité du pardon, réflexion sur Shakespeare de Peter Brook, paraît aux éditions du Seuil dans une traduction de Jean-Claude Carrière.
Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.